Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business. Culture geek.
Et forcément, Tony Morel, vous vouliez rendre hommage à quelqu'un qui a nourri toute l'industrie de la tech, Gordon Moore, la fameuse loi de Moore, qui a dit que on double la vitesse dans les microprocesseurs tous les 18 mois, tous les 12 mois, tous les 24 mois. La loi a évolué.
Ça a varié, ouais.
Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été quelque chose de fabuleux pour l'industrie de la tech.
Ah, mais clairement, sans lui, les PC, les smartphones tels qu'on les connaît aujourd'hui ne seraient pas ce qu'ils sont, vraiment. À partir de cette... Alors, ce qu'on a appelé une loi, en fait, c'était une prédiction qui date de 1965, donc la loi de Moore. Donc, l'idée selon laquelle le transistor, qui est l'unité de base, en fait, de l'ordinateur, vraiment, là, c'est la base de l'architecture qu'on peut mettre sur une puce électronique, va... doublé, effectivement. Au début, c'était tous les ans, après tous les deux ans, tous les 18 mois. En gros, l'idée, c'est de dire qu'on allait avoir une accélération presque exponentielle, finalement, de la puissance de ces machines. Et c'était une intuition. Enfin, 1965, quand même. On est à une époque où l'ordinateur, c'est un truc qui prend toute la place dans une pièce. Lui, il avait déjà l'intuition qu'on pourrait avoir, effectivement, des appareils qui seraient beaucoup, beaucoup plus puissants. Et ça s'est réalisé, puisqu'on est presque 60 ans après. Aujourd'hui, sur un transistor, sur un microprocesseur, on peut mettre plusieurs milliards de transistors. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, cette prédiction qui était presque une profession de foi, elle a poussé l'ensemble de l'industrie à se dire, en fait, on va pouvoir créer des machines qui vont être de plus en plus puissantes, qui vont aussi coûter de moins en moins cher. Et c'est ce qui explique que quasiment tous les deux ans, finalement, on a des ordinateurs portables, on a des smartphones qui vont être deux fois plus puissants et dont le prix va être divisé par deux pour les consommateurs et pour les industriels, évidemment. Donc c'était une vraie révolution.
Et c'est aussi un sacré chef d'entreprise parce qu'il est à l'origine d'Intel.
Et c'est quand même pas rien. Alors, il disait lui-même qu'il était entrepreneur par accident, mais enfin, il a quand même eu une petite réussite, on va le dire comme ça. Lui, il était vraiment scientifique, docteur en chimie. Fin des années 50, il commence sa carrière dans la Silicon Valley, donc c'était vraiment l'ère des pionniers. 1968, il crée Intel. Il commence à travailler sur des puces électroniques moins coûteuses à base de silicium. Alors, c'était pas évident à cette époque-là. Pourtant, maintenant, c'est devenu complètement la base, mais c'était pas si commun que ça. Et puis, Intel va inventer le premier microprocesseur. Donc, on met toutes les puces importantes d'un ordinateur sur une même puce. Et ça, c'est une révolution, puisque c'est ce qui va permettre de miniaturiser toute l'informatique et de nous permettre d'entrer dans l'ère du PC personnel, du smartphone. Alors, même si au début, il n'y croyait pas trop. Quand on a commencé à travailler là-dessus, il y a un de ses salariés qui lui dit « On devrait fabriquer des ordinateurs pour les gens à la maison, des ordinateurs personnels. » Et il dit « Mais qui voudrait avoir un ordinateur à la maison, finalement ?» Ouais. Donc, on peut être visionnaire, mais pas être un génie surtout non plus. Mais bon, fortune de 7 milliards de dollars quand même.
Je ne sais pas s'il avait eu l'occasion de s'exprimer sur l'intelligence artificielle, mais l'ironie du sort, effectivement, c'est qu'il disparaît au moment où, sans doute plus que jamais, la puissance de calcul des transistors et des semi-conducteurs rend possible l'émergence de l'IA.
C'est exactement ça, en fait. L'augmentation rapide de cette puissance de calcul, c'est probablement l'une des illustrations les plus frappantes, finalement, de la loi de Moore, et c'est ce qui a rendu possible ChatGPT, GPT-4, dont on parle sans cesse. Et puis, ironie du sort aussi, il meurt à un moment où la loi de Moore, elle commence à être remise en question. C'est-à-dire que les avancées technologiques font qu'on arrive à une limite physique. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez, un transistor, ça fait quelques atomes d'épaisseur. Ouais. Donc ça devient compliqué, si vous voulez, d'en mettre encore plus sur un millimètre carré donné. Alors peut-être qu'elle va être dépassée on va pouvoir dépasser ses limites physiques, notamment avec l'informatique quantique. Avec aussi ce qu'on appelle les processeurs neuromorphiques qui s'inspirent carrément du fonctionnement du cerveau humain, donc avec une architecture beaucoup plus efficace. Tout ça va prendre des années, voire des décennies à se développer, mais ça permettra peut-être à la loi de Moore de continuer à exister sous une autre forme, et maintenant que Gordon Moore a disparu.
Merci beaucoup, Anthony.
Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.